Alors bonsoir à tous, on blague, mais c'est l'avantage de Main d'Espérance, c'est qu'on se cultive dans la bonne humeur. Et donc je suis très heureux que nous puissions accueillir Florence Boyer donc, ce soir, qui est chercheuse à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et en cela, elle est une lointaine héritière de l'Office de la recherche scientifique coloniale, créé en 1943, qui deviendra leur STOM 10 ans plus tard, et aujourd'hui l'IRD. Je suis certain qu'elle pourra vous... Je crois qu'elle pourra vous. Qu'elle pour... Non, non, j'ai écrit. Qu'elle pourra vous évoquer, qu'elle pourra évoquer avec vous l'histoire de la recherche au sein de l'IRD, si vous le souhaitez. Les questions sont les bienvenues. D'ailleurs, moi-même, j'aimerais beaucoup en connaître un peu plus sur cette science coloniale, comme on a pu l'expliquer à une époque. Mais surtout, ça a venu aujourd'hui a pour objectif d'aborder plus sérieusement, c'est quand même une question sérieuse que je viens de dire précédemment, mais d'aborder la question des expériences migratoires et du recueil des récits de celles-ci, ici à partir de travaux réalisés sur un ensemble d'enquêtes menées au Niger. Et dans le cadre des recherches qu'elle mène au sein de son laboratoire, l'URMIS, localisé à l'Université Paris Diderot, Florence Boyer conduit une réflexion importante aujourd'hui dans la recherche sur les migrations internationales à propos de la pertinence de la notion de projet migratoire, éclairée ici au prisme de l'étude de parcours individuels, mais toujours considérée dans le cadre de réflexions intégrant des stratégies familiales, des relations intergénérationnelles ou des dimensions sociales réticulaires, ou bien encore fortement hiérarchisées. Je suis donc très content que nous puissions l'accueillir aujourd'hui et aussi très content que nous puissions faire une place à la recherche sur l'Afrique et la recherche conduite en Afrique en partenariat avec des institutions locales, puisque au fil des années, en regardant les programmes précédents, je me suis rendu compte que nous avions laissé une très faible place à la recherche conduite et portant sur différents pays africains. Donc on est doublement heureux de ta venue et on te laisse la parole pour 45 minutes. Non, mais c'était pour lui faire un petit peu peur. Oh.
Merci. Peut-être vous qui êtes coloniaux, si vous avez oublié l'Afrique, c'est pas un bon signe quand même. Alors, dans cette présentation, je vais aborder une question qui a été un petit peu absente, me semble-t-il, en tout cas, des travaux sur les migrations, à savoir donc celle des expulsions et surtout des trajectoires post-expulsion. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe après qu'une personne, un migrant, ait été expulsé du pays dans lequel il était installé pour un temps plus ou moins long? Alors, de façon assez générale, les expulsions peuvent s'apparenter à une forme de retour assez particulier, puisque, et donc à ce titre, on peut inscrire les expulsions dans cette grille de lecture et cette forme de catégorisation spécifique qui distingue les retours forcés des retours volontaires, donc une distinction extrêmement classique. Et dans le contexte ouest-africain, donc qui nous intéresse particulièrement ici, les travaux font état donc de ces retours qui sont dits volontaires, en lien généralement avec des questions de développement, d'investissement dans les pays d'origine. Mais cette approche et cette analyse est quand même fortement corrélée au contexte politique, notamment en particulier à celui du Nord, et à la mise en œuvre des politiques dites de co-développement, qui sont présentées et qui sont porteuses, enfin qui sont autant en tout cas d'incitations à ces retours également dits volontaires. Et en fait, on remarque qu'il y a quand même l'émergence de cette notion de retour dans les travaux autour de la fin des années 70, début des années 80, et vraiment contemporaine, enfin très contemporaine, de l'émergence des politiques de retour. Donc il y a vraiment une sorte de connivence entre les catégories scientifiques et les catégories politiques autour, pour ce qui est en tout cas du retour. Et donc l'ambivalence entre politique de développement et politique migratoire ici conduit à mettre en question cette distinction initiale entre retour volontaire et forcé, et notamment ces politiques incitatives au retour, même si elles ne concernent au final qu'un très faible nombre de personnes, ne peuvent être associées, en tout cas me semble-t-il, à une forme autonome de mobilité. Alors la forte prégnance du politique se retrouve aussi plus évidemment dans l'appréhension des retours forcés, l'expulsion constituant à ce titre et a priori la figure ultime du retour forcé organisé par un État. Également, donc, ce type de retour forcé peut se déclencher dans des contextes de conflits, de violences xénophobes. On peut par exemple ici se souvenir de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire dans la première décennie des années 2000, où un certain nombre de violences xénophobes ont eu lieu et ont donné lieu au rapatriement. Et là, on n'utilisait pas expulsion, dans la mesure où ce n'était pas quelque chose d'organisé par l'État ivoirien. Mais on parlait, en tout cas, on a parlé au Burkina de rapatriement de milliers, voire de centaines de milliers de Burkinabés qui étaient soit émigrés, soit nés en Côte d'Ivoire. Donc, ils sont rentrés vers leur pays d'origine, le Burkina. Un autre usage de la notion de retour renvoie à des formes de mobilité vers le lieu d'origine qui sont liées à des temps particuliers, le temps des vacances, le temps des visites aux familles, aux amis. Et si cette notion de retour a pu être utilisée pour qualifier et désigner ces mouvements temporaires, celle de va-et-vient ou surtout celle de circulation l'a largement supplantée. Bon, Migrinter ayant largement participé aussi à ça. Alors, sans entrer, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces catégories de retour, mais la question qui se pose, me semble-t-il, ici, enfin, une première question, est celle des échelles de temporalité de l'analyse. Autrement dit, le retour consacre-t-il la fin de la migration ? Est-il possible de parler de retour lorsque celui-ci s'accompagne d'un projet de réémigration, qui sera effectif ou non ? Et comment positionner les expulsions dans cette catégorisation entre une expulsion synonyme de fin des mobilités, ce qui est souvent le souhait des politiques qui ont porté l'expulsion, qui est celui de renvoyer et de fixer, au-delà de simplement renvoyer, et donc entre une fin de mobilité et un projet de réémigration que l'expulsion, a priori, n'interdit pas. En lien donc avec cette réflexion sur les temporalités des retours et des expulsions, se retrouve aussi la question des échelles spatiales du retour. Retourner ne signifie pas forcément revenir vers le lieu d'où l'on est parti. Par exemple, on constate, et ça va être le cas dans ce dont je voulais vous parler sur le Niger, les villes constituent des espaces de retour privilégiés. Elles offrent beaucoup plus d'opportunités, souvent, de confort, de services, que les espaces ruraux d'où sont originaires de nombreux migrants. Et dans le cas des expulsions plus particulièrement, le retour vers le lieu d'origine au sens strict est fortement compromis généralement par une situation d'échec dans laquelle se trouve le migrant donc au moment de son arrivée sur le territoire national. Il est alors contraint donc soit à une installation urbaine ou en tout cas du moins à une installation à distance de son lieu d'origine ou alors à une réémigration qui peut être immédiate ou prendre du temps, disons, pour se construire, on le verra au fil du propos. Donc l'objectif ici est un petit peu d'explorer ces différentes facettes du retour au travers de ce cas particulier des expulsions, et donc notamment, comme le montre le titre, des expulsions de Nigériens d'Arabie Saoudite. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais peut-être dire quelques mots quand même sur les migrations nigériennes et sur ces fameuses migrations nigériennes vers l'Arabie Saoudite. Alors pour ce qui est d'immigration internationale nigérienne de manière un petit peu globale, on peut retenir deux éléments principaux. Hop là, voilà. D'une part, les migrations nigériennes, la grande particularité par rapport aux voisins maliens ou sénégalais, notamment, c'est qu'elles se dirigent essentiellement et elles se déploient au sein du continent africain, plus particulièrement vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest et vers l'Afrique du Nord également, essentiellement l'Algérie et la Libye. Là, une petite carte qui résume un petit peu les principaux flux. C'est une carte qui représente à l'origine les compagnies de transport qui partent de Niamey vers différentes destinations, qui donne un bon aperçu en fait de ce qui est aujourd'hui le système migratoire nigérien. Autre particularité, ces migrations internationales nigériennes sont surtout des migrations circulaires, c'est-à-dire que les migrants ne résident qu'un temps à l'étranger, quelques mois à quelques années, avant de rentrer et de rester également un temps dans leur espace d'origine, leur espace de départ, pour ensuite repartir, qui est une forme de circulation qui peut durer tout le long de la vie active. Alors, cette logique de circulation est en quelque sorte, est finalement assez emblématique de l'espace sahélien, au sens où elle renvoie à ces on ne peut plus classiques migrations saisonnières qui ont été décrites au Sahel depuis les années 30, 40, depuis fort longtemps, qui, donc l'absence, où les hommes en particulier partaient pendant la saison sèche, qui est une zone de faible activité d'un point de vue agricole, pour revenir ensuite au moment de la saison des pluies pour cultiver. Donc les migrations circulaires s'inscrivent dans cette logique-là, sauf que la temporalité de l'absence et des présences dans les villages ont évolué. Donc le retour, finalement, au travers de ces circulations, le retour dans l'espace d'origine constitue quand même un élément de définition et de caractérisation de ces migrations internationales au Niger. Un autre élément qui est plus récent renvoie à l'émergence depuis quelques années d'une figure particulière au Niger, qui est aujourd'hui une figure utilisée, un terme utilisé dans le sens commun, qui est la figure du retourné. Alors, cette catégorie est apparue d'abord dans un premier temps dans les discours institutionnels, en particulier dans les discours de l'OIM, l'Organisation des Migrations Internationales, et dans les discours également du gouvernement nigérien. Et elle a été reprise au fil du temps dans le langage courant. Et elle désigne très particulièrement des migrants, circulaires ou non, peu importe, qui ont été refoulés ou expulsés d'un pays d'arrivée, essentiel à l'origine la Libye, vers le Niger, et qui, au moment de leur refoulement et de leur arrivée sur le territoire nigérien, ont été pris en charge par des ONG ou des institutions nationales ou internationales. En tout cas, ils ont été accompagnés, un tant soit peu, ou à minima même, dans leur réinstallation au Niger. Et donc, ces retournés viennent essentiellement, je vous l'ai dit, de Libye. Ce phénomène a commencé au début de la guerre en Libye avec la chute de Kadhafi. Ils viennent essentiellement d'Algérie également, de Centrafrique, toujours en raison du conflit en Centrafrique, et de Côte d'Ivoire à la fin des années 2010, enfin en 2010 même, toujours pour des raisons de conflit. Et donc, cette figure du retourné est éminemment politique, puisqu'elle désigne un migrant qui, effectivement, n'a pas fait le choix de rentrer, mais surtout, elle désigne un migrant qui est pris en charge par des institutions nationales ou internationales, qui, au travers de cette prise en charge, vont s'attacher à limiter, en tout cas, son nouveau départ, ou à empêcher, même si ce n'est pas exactement possible, enfin, une volonté vraiment de limiter la réémigration. Et ce dernier, donc, c'est la construction de cette catégorie particulière de retourné, distingue justement ces refoulements, enfin au travers de la prise en charge, distingue justement les expulsés d'Arabie Saoudite qui ne sont pas concernés, qui ne rentrent pas dans cette catégorie de retournés, dans la mesure où eux, eh bien, ils disparaissent en quelque sorte quand ils arrivent au Niger, ils ne sont absolument pas pris en charge. Alors, au sein... Finalement, au sein du système migratoire nigérien contemporain, enfin actuel, les départs, en fait, comme les expulsions d'Arabie Saoudite, pâtissent en quelque sorte d'une double invisibilité. D'une part, le fait que ces migrations soient quasi systématiquement illégales, en tout cas pour ce qui est des conditions de séjour en Arabie Saoudite, l'absence de données chiffrées sur cette migration participe très largement de leur méconnaissance et de leur non-publicisation. Et d'autre part, donc ce que je viens de dire, ces expulsés nigériens d'Arabie Saoudite ne sont absolument pas pris en compte dans cette catégorie de retournés, même si, bien évidemment, les autorités nigériennes ont parfaitement connaissance de l'existence de ces expulsés, ne serait-ce que parce qu'ils passent tous par l'aéroport de Niamey pour arriver au Niger. Et tout se passe, en fait, comme si ces expulsions n'avaient pas lieu, même si, encore une fois, elles sont anciennes, puisqu'elles remontent à minima aux années 80. Autrement dit, donc, ces expulsés sont totalement invisibles au Niger et ne sont pas catégorisés ou désignés comme tels. Alors, quelques chiffres quand même s'ils sont lacunaires, je vous en ai mis deux ici sur la diapositive. Entre 1988 et 2001, les retours expulsions d'Arabie Saoudite auraient augmenté, représentant respectivement 2% et 3,2% des arrivées de Nigériens sur le territoire nigérien, donc des expulsions. Et là, vous avez deux chiffres en 2005 et 2006, qui sont des données de police, qui sont les seules et les dernières données de police dont on dispose, que ce soit sur l'Arabie Saoudite ou sur les refoulements de Libye. Sachant que, vous voyez, l'Arabie Saoudite constitue un très faible pourcentage. Par exemple, en 2005, c'est essentiellement des refoulements, des expulsions de Libye qui font que le chiffre est assez élevé. Alors, l'absence de données sur les départs de ces Nigériens vers l'Arabie Saoudite tient sans doute quand même au caractère illégal donc de leur séjour dans le royaume saoudien, puisque les migrants en fait utilisent la Umra ou le Hajj, donc le pèlerinage ou le petit pèlerinage, donc qui sont deux pèlerinages annuels dans les lieux saints de l'islam, donc à la Mecque et à Médine essentiellement. Donc ils utilisent ce pèlerinage pour se rendre tout à fait légalement en Arabie Saoudite via le visa pèlerinage. Alors, en termes d'organisation, je ne sais pas si vous savez comment on s'organise le pèlerinage en Arabie Saoudite. En fait, il y a un système de quotas. Chaque pays musulman et non musulman aussi, enfin chaque pays où résident des musulmans, je vais arrêter de m'acharner sur le micro, a un quota annuel de pèlerins. Donc, vous avez par exemple en 2015, il y avait 12 000 Nigériens qui étaient autorisés à se rendre en pèlerinage au Niger, ce qui est assez important, ne serait-ce que pour le Niger. Et pour donc l'organisation de ce voyage est confiée à des agences de pèlerinage qui au Niger sont reconnues, mais c'est le cas en France aussi hein, également, sont reconnues très officiellement par l'État nigérien, et le prix du pèlerinage est négocié entre l'État nigérien, l'Arabie Saoudite et les agences en question. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, le pèlerinage coûtait au Niger environ 4000 euros. Donc vous voyez que c'est quand même assez énorme. Alors, dans ce paquet pèlerinage, l'agence a en charge l'obtention du visa pèlerinage, qui est un visa d'un mois qui n'autorise les personnes à se rendre uniquement dans les lieux saints. Vous n'avez pas du tout le droit de voyager dans toute l'Arabie Saoudite. Et c'est un visa d'un mois. Vous avez le billet d'avion et puis tous les frais de séjour, hébergement, nourriture, etc. C'est une espèce de package pèlerinage complet. Et donc, ils utilisent ce pèlerinage et cette opportunité du pèlerinage pour se rendre donc légalement en Arabie Saoudite. Et à la fin des rites, ils font le choix de ne pas retourner au Niger une fois donc que le visa est expiré. Et donc, ils séjournent illégalement dans ce royaume saoudien, et leur présence étant alors de fait extrêmement concentrée, enfin même quasi systématiquement concentrée, soit à la Mecque, soit à Médine, mais quand même très largement plutôt à la Mecque. Donc, évidemment, je ne peux absolument pas vous donner, on n'a aucune connaissance de la fourchette, du nombre de pèlerins qui restent en Arabie Saoudite une fois le pèlerinage terminé. Merci. Mais chaque année, en fait, alors c'est pas du tout spécifique au Niger, hein, c'est un système qui concerne même pas seulement l'Afrique de l'Ouest ou le continent africain. Chaque année, le pèlerinage est aussi une arrivée pour l'Arabie Saoudite de migrants. Et chaque période qui précède le pèlerinage est aussi une occasion pour l'Arabie Saoudite d'expulser beaucoup de migrants, une espèce de système de vase communicant qui est largement utilisé par les Saoudiens. Alors, un autre élément, donc justement, c'est que ces expulsions, leur ampleur aussi, les personnes concernées, le type de personnes concernées, dépend aussi des politiques migratoires saoudiennes. Alors depuis les années 2010, en lien, enfin grosso modo depuis les printemps arabes et en lien aussi avec les printemps arabes, l'Arabie saoudite a mis en place une politique vraiment de plus en plus offensive en matière d'expulsion, celle-ci augmentant de manière extrêmement importante. Et alors qu'à certaines périodes, des migrants ont pu résider pendant plusieurs années en Arabie saoudite, de manière, donc sans avoir de papier, sans être inquiété, ou en tout cas en pouvant travailler et circuler à peu près correctement. Aujourd'hui, en fait, on s'inscrit dans une logique de rafle, d'expulsion massive, où l'arbitraire, l'absence de droit, du respect des droits des étrangers, si tant est que les étrangers aient des droits en Arabie saoudite, prévaut très largement. Et c'est une collègue, Hélène Thiollet, qui parle d'une gestion des migrations par l'expulsion, enfin une politique migratoire qui se construit uniquement par l'expulsion. Alors, donc, dans ce que cette logique donc politique, où je pourrais éventuellement un petit peu y revenir, donc conduit à l'expulsion de migrants qui sont présents pour certains, je l'ai dit, depuis plusieurs années sur le territoire saoudien, d'autres depuis quelques mois, mais aussi à l'expulsion de descendants de migrants nés en Arabie saoudite, dont la situation des parents a pu être régularisée à un moment donné, dans des moments où les politiques étaient beaucoup moins restrictives qu'aujourd'hui. Certains ont même acquis la nationalité saoudienne, mais cela ne signifie pas pour autant que leurs enfants peuvent en bénéficier. Et également, dernier élément, l'Arabie saoudite applique le principe de la double peine, donc il y a un certain nombre de migrants, ou d'enfants de migrants plutôt, nés en Arabie saoudite, qui sont expulsés et qui perdent leurs papiers suite à un petit délit. Alors un petit délit, c'est boire de l'alcool, c'est être pris avec une jeune femme, une femme qui n'est pas votre mère, ni votre sœur, ni votre femme, enfin qui vous n'avez pas le droit d'être. Donc on est vraiment dans du petit délit. Et certains également ont pu être déchus de leur nationalité. Alors pour analyser ces trajectoires d'expulsés d'Arabie saoudite, donc je vais décliner mon propos en deux temps qui reprennent un petit peu le fil de l'expérience migratoire. Dans un premier temps, je m'attardais un petit peu sur le temps du séjour en Arabie saoudite et la manière dont justement le projet migratoire se construit dans ce moment-là, ou en tout cas évolue dans ce moment-là, et également le temps de la rupture que constitue l'expulsion. Et donc, dans un deuxième moment, je m'intéresserai plutôt justement à ce qui se passe après l'expulsion, c'est-à-dire le moment de l'arrivée et de l'installation qui peut durer au moment où j'ai rencontré les migrants depuis plusieurs années à Niamey, au Niger. Alors, la particularité donc, de ces migrations, comme je vous le disais, c'est que le séjour en Arabie Saoudite s'inscrit dans l'illégalité. Donc, puisque les migrants utilisent le pèlerinage pour se rendre dans le royaume saoudien, y travailler et y séjourner. Cependant, je vais revenir un petit peu justement sur ces questions des conditions de séjour en Arabie Saoudite. En fonction donc de la période d'arrivée, des politiques migratoires, donc, ce que je vous disais, certains ont pu acquérir progressivement des papiers. Donc un titre de séjour qu'on appelle en Arabie Saoudite, c'est le système de la kafala, qui représente donc la légalité du séjour et qui s'acquiert soit avant de partir, même si c'est extrêmement compliqué, soit sur place auprès d'un kafil qui est votre employeur et qui se porte en quelque sorte garant de votre séjour. Et donc vous ne bénéficiez de ces papiers et de cette garantie de l'employeur que le temps qu'il vous emploie. Normalement, si vous changez d'employeur, vous êtes censé mettre à jour vos papiers. Et si votre contrat de travail se termine, vous êtes censé rentrer dans votre pays d'origine. Et pour vous donner un exemple, pendant très longtemps, même si vous aviez changé d'employeur, vos papiers n'étaient pas à jour en termes d'employeur, vous n'étiez pas forcément expulsé. Aujourd'hui, vous êtes systématiquement expulsé, pour donner une idée des changements politiques. Et donc l'obtention de papiers a permis à certains de s'inscrire dans une logique d'installation durable qui a autorisé la fondation de familles. Il y a des familles nigériennes qui sont installées en Arabie Saoudite depuis les années 30, qui ont effectué le pèlerinage à pied, une espèce de longue épopée, et qui sont installées donc à la Mecque depuis les années 30 ou 40, et donc qui, eux, sont en partie régularisées. Et donc cette régularisation bénéficie à la première génération, mais ne peut pas bénéficier à la deuxième génération, qui, au moment où elle atteint un certain âge, qui est plus ou moins l'âge adulte, elle doit trouver son propre kafil et donc construire, enfin acquérir sa propre carte de séjour. Les enfants ne pouvaient pas être inscrits ad vitam aeternam sur les papiers de leurs parents. Et donc les descendants qui ont perdu cette affiliation, ou ce que je vous disais, parce qu'ils ont commis une infraction mineure, se retrouvent expulsés au Niger, dans ce qui est à ce moment-là uniquement le pays de leur nationalité, un pays qu'ils ne connaissent absolument pas et dont ils maîtrisent aussi rarement les langues, enfin dont ils ne maîtrisent pas forcément les langues. Alors, comment le risque et l'expérience donc, de l'expulsion sont envisagés par l'une et l'autre de ces catégories, donc les migrants classiques, ce que j'ai qualifié de migrants classiques, même si l'expression n'est pas très jolie, et les Nigériens nés en Arabie Saoudite, sachant donc que les uns sont migrants et étrangers en Arabie Saoudite, alors que les autres sont juste étrangers, ils n'ont jamais migré, ils n'ont jamais quitté le territoire saoudien. Le choix du départ donc, vers l'Arabie Saoudite s'inscrit dans des trajectoires individuelles, donc ce qu'on va voir au travers de différents exemples, qui associe des migrations internes à des migrations internationales et dans un projet migratoire où la dimension religieuse quand même et économique se mêle pour dessiner les contours d'une possible réussite ou en tout cas d'une réussite qui serait plus importante, meilleure que celle permise par les mobilités précédentes. Pour ce qui est en particulier des hommes, les expériences antérieures de migration les ont souvent conduits dans les grandes villes d'Afrique de l'Ouest suivant ce schéma, donc vous avez vu la carte classique des migrations nigériennes. Donc au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Et ces séjours antérieurs peuvent être envisagés comme une forme, en quelque sorte, d'apprentissage de la mobilité, au cours duquel les migrants construisent un capital social, ils acquièrent des compétences qui peuvent être transformées en autant de retours possibles, soit dans une logique de retour au Niger, ce qui est le cas, parce que la plupart sont partis du Niger, soit dans une logique de nouvelle migration, et notamment de cette migration vers l'Arabie Saoudite. Et donc le projet de départ vers l'Arabie Saoudite s'inscrit dans la continuité de ses expériences précédentes, au sens où il se construit justement grâce aux ressources sociales, économiques qui ont pu être accumulées. Et en fait, rares sont ceux qui ont pris la décision de partir sans connaissance de ce lieu, de l'Arabie Saoudite, sans avoir d'informations, et surtout sans bénéficier de l'aide des proches, ce qui, vu l'ampleur du coût du pèlerinage, est quand même quasi obligatoire, donc pour le financement du voyage et pour des informations aussi. Alors, je vais prendre un exemple pour représenter et présenter un petit peu la logique de ce départ, qui est un parcours un peu particulier. Donc Brahima, que j'ai appelé Brahima, est née donc à Zinder, dans la région de Zinder exactement, donc qui est la deuxième ville du Niger. À 25 ans, il est parti donc à Abuja, la capitale du Nigeria, pour travailler comme boulanger chez un parent, qui est un oncle en fait. Et pendant 7 ans, il a pratiqué des allers-retours entre Abuja et sa région d'origine, selon ce schéma, alors là, on ne peut plus classique, absence, donc présence au Nigeria pendant la saison sèche et retour au village pour participer aux cultures. Ces allers-retours lui ont permis de constituer une petite épargne pendant 7 ans quand même et d'accumuler, enfin de regrouper, de payer la dot, pardon, voilà, d'acquérir le montant de la dot nécessaire à son mariage. Donc il s'est marié et à la suite du décès prématuré de son épouse et de son enfant, en fait, hein, il est venu à Niamey, donc dans la capitale, appelé, donc c'est... Hop, je montre la diapo suivante qui correspond au premier extrait d'entretien ici. Il est venu à Niamey, appelé par un membre de sa famille qui avait besoin d'un... Alors, c'est un peu... Il n'y a pas compliqué. Enfin, d'un gardien. On parle de gardien. Le terme n'est pas complètement exact. Mais en tout cas, de quelqu'un qui surveille sa maison, qui surveille sa famille de manière très, très gentille. Enfin, pas surveillance policière. Hein, qui soit là, enfin, d'une présence voilà, masculine, en l'occurrence, chez lui, puisque cette personne qu'il a appelée partait elle-même en migration en Arabie saoudite. Et donc, vous voyez cet extrait d'entretien où il dit « Je suis venu m'asseoir à Niamey ». Alors, ça renvoie au titre qui était un peu obscur de cette communication. Et vous avez ici, dans cette phrase, en fait, « Je suis venu m'asseoir », »,« Je suis venu chercher », vous avez les deux termes, en fait, qui sont extrêmement récurrents dans les entretiens, si on traduit mot à mot, enfin, mot à mot et au sens littéral, que ce soit à la fois en Haoussa ou en Jerma, qui sont les deux langues dominantes à Niamey. Les termes qui sont utilisés pour qualifier la migration, le fait d'aller ailleurs, je suis venu m'asseoir, on va s'asseoir ailleurs, et venir chercher, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un peu plus clair, c'est-à-dire on part chercher quelque chose. Et donc il est venu à Niamey, appelé par cette personne, au départ obéissant à quelqu'un qui est son aîné, et donc ayant aussi une opportunité de quitter son village, ou devenu veuf, il avait beaucoup moins d'opportunités, et on lui a, donc cette personne, au bout d'un moment, lui a, il y avait un terme que je voulais éclairer, lui a payé une table, voilà, la deuxième ligne, j'avais une table. Alors, une table, c'est bah, une table où on peut mettre, enfin, que justement, ces personnes qui sont gardiens mettent devant les portes, ils vendent des cigarettes, des bonbons, enfin, vraiment des petites choses. Ça permet d'assurer, d'avoir un petit peu plus que l'argent de poche, mais vraiment pas beaucoup plus. En tout cas, sûrement pas de partir en Arabie Saoudite. Et donc, c'est cette personne qui l'a appelée, qui, elle, est rentrée d'Arabie Saoudite et a eu une autre opportunité de partir aux États-Unis, qui lui a offert la possibilité, l'opportunité de partir à la Mecque en lui fournissant, ou en tout cas en l'aidant à la fois d'un point de vue financier pour les frais de voyage et aussi d'un point de vue plus social, c'est-à-dire en l'introduisant dans les réseaux dans lesquels lui était en Arabie Saoudite. Alors, ce parcours de Brahima, qui cumule à la fois migration internationale, mais de proximité, et donc migration en Arabie Saoudite plus lointaine, est quand même assez classique pour beaucoup de jeunes ruraux au Niger. Une migration de proximité qui est effectuée dans un cadre familial, elle permet de constituer un petit pécule, certes, de consolider des liens familiaux dans le cadre d'une famille dispersée, mais elle n'autorise pas vraiment d'accumulation, au sens, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas de se projeter dans une logique de réussite ou d'ascension sociale, c'est-à-dire même pas de réaliser des investissements. On peut récupérer l'argent de la dot, mais ça va pas, c'est compliqué d'aller un petit peu au-delà. Et donc l'opportunité d'aller vers l'Arabie Saoudite s'inscrit donc dans cette logique d'aller chercher de l'argent, mais là avec quand même le projet ou l'espoir plutôt de s'inscrire dans une logique d'ascension sociale et un espoir d'accumulation et à terme de potentiel investissement. Mais ce projet reste quand même contrecarré par le risque d'être pris, d'être arrêté, et donc ce qui est un petit peu le sens de la deuxième citation, notamment de la fin de la citation. Il y a toujours... vous ne voyez pas ou...
Non, on ne voit pas, mais...
je vais la lire. Alors, la deuxième citation, qui est un peu... Enfin, je l'ai mise ici parce qu'elle me semble qu'elle est une espèce de concentré de la manière dont se joue l'immigration internationale, en tout cas dans ce contexte au Niger, où il dit « on espère toujours revenir, donc au Niger, mais on espère revenir avec quelque chose que les gens vont venir voir ». C'est ça l'espoir, le vœu du fils d'Adam. C'est comme moi, quand tu veux payer un véhicule, tu vas payer ce que les gens vont venir voir. Donc il faut démontrer un petit peu sa réussite. Quand on part à l'étranger, en 2 ans, on peut trouver quelque chose et revenir faire du commerce. Et ça, c'est justement ce que permet, lorsqu'on va dans les pays côtiers, on peut rentrer et monter un petit commerce à Niamey, mais qui ne va pas vous permettre de sortir vraiment de votre condition de départ. Or, quand on est en Arabie Saoudite, on a toujours un pied à Niamey, au Niger, un pied à la Mecque. Parce que maintenant, vous pouvez faire au revoir avec les parents et dire que je pars au travail. Et d'ici l'après-midi, vous pouvez vous retrouver au Niger, parce que quand on vous prend, on va vous expulser. Donc, c'est un petit peu cette ambivalence. On part, on va revenir, et cette ambivalence de l'Arabie Saoudite, le risque étant, c'est une espèce de pari qui est fait, en tout cas, autour de ce risque de l'expulsion et d'être arrêté. Donc au moment, en quelque sorte, du départ et la construction du projet, il y a une conscientisation vraiment totale du fait d'être expulsé et donc de s'inscrire dans finalement où est-ce qu'on peut qualifier ici de logique de pari. Alors effectivement, j'y reviens un petit peu, mais selon les périodes, cette logique de pari n'est pas la même. Elle dépend de l'attitude des autorités saoudiennes, évidemment, qui est quelque chose que les migrants ne peuvent pas forcément maîtriser. Mais il y a quand même des sortes de... Enfin, petite parenthèse, des sortes de tactiques ou de périodes, par exemple. Tous les migrants qui ont été expulsés, justement, disent qu'il ne faut jamais sortir avant le Hajj. Et certains ne travaillent pas avec tout ce que ça suppose pendant un mois avant le Hajj. Parce que, quelles que soient les politiques migratoires saoudiennes, c'est vraiment la période des grandes rafles, où on arrête tout le monde parce qu'on sait que de nouveaux migrants vont arriver un mois plus tard. Voilà, une espèce de logique un peu. Donc c'est beaucoup de migrants à ce moment-là se cachent, arrêtent de travailler, ne sortent plus des maisons et ressortent par contre au moment du pèlerinage. Un autre exemple. Alors j'ai oublié de changer le prénom en haut. On voit le copier-coller là, c'est pas très classe. Un autre exemple de parcours qui justement renvoie, qui s'étale, où là le séjour en Arabie Saoudite s'étale sur plusieurs années, enfin s'étale sur une très longue période, et où justement l'expulsion a été utilisée aussi, ce qui est moins le cas aujourd'hui parce que moins possible, a été utilisée comme une forme de circulation. Alors, c'est le cas de Garba, c'est pour ça que j'ai oublié de changer le prénom en haut. Donc, il est parti, il a, comme je ne m'attarde pas, c'est peut-être sur l'immigration intermédiaire. Donc, il vient de cette région du Niger qui est ici, qu'on appelle le Zarmaganda, en zone rurale. Il a d'abord effectué une migration interne, séjourné, travaillé à Niamey, fait des allers-retours, village d'origine, espace urbain. Parti à Lagos. Donc au Nigeria, de la même manière que le cas précédent, avec toujours cette logique d'aller-retour, également en repassant systématiquement par Niamey, et également des allers-retours avec la Côte d'Ivoire, donc sur Abidjan, pendant plusieurs années. En 1987, il est parti donc à la Mecque, au moment du Hajj, où il a effectué un premier séjour de 2 ans, à la fin duquel il a décidé lui-même, de rentrer au Niger pour rendre visite à sa famille. Et donc, il a utilisé ce que beaucoup de migrants nigériens, et pas seulement nigériens, ont utilisé pendant ces périodes-là, c'est-à-dire qu'il a fait exprès de se faire prendre par la police. Alors, d'abord, ils ont... une parenthèse, étant sans papier, séjournant illégalement en Arabie Saoudite, hein, ils ne peuvent pas aller dans une agence et acheter un billet retour. Ce n'est pas du tout possible, d'abord parce qu'ils sont sans papier et parce qu'ils sont étrangers. Donc il y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ne sont pas saoudiens. Donc le meilleur moyen de rentrer dans ces cas-là, c'est de se faire arrêter et d'être expulsé. Et il a poursuivi cette logique de circulation, là, véritablement, et c'est pour ça que j'ai fait 2 flèches, une rouge et une noire, jusqu'en 2006. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'entretien, en fait, il distingue lui-même, il fait lui-même la distinction, puisqu'il dit, voilà, pendant cette période, j'ai effectué 6 allers-retours et j'ai vécu 3 expulsions. Donc il a été arrêté de manière involontaire 3 fois, Mais par contre, il a circulé, a été arrêté de manière volontaire 6 fois. Et il y a quand même les cas de ce type-là ne sont pas si exceptionnels que ça. En tout cas, lorsqu'on fait des entretiens avec des migrants qui, du coup, sont plus âgés et qui se sont rendus en Arabie Saoudite dans les années 70-80, jusque dans les années 90, c'était un système qui était tout à fait utilisé. On pouvait pratiquer des allers-retours. Et donc, même si l'incertitude, cette logique de Paris reste quand même au centre du projet migratoire et puis de la migration vers l'Arabie Saoudite, elle évolue justement selon des projets migratoires individuels. Certains ne souhaitent pas du tout circuler une fois qu'ils sont là-bas. Les contextes familiaux et les politiques aussi mises en œuvre par l'Arabie Saoudite. Et donc, les migrants, en fait, se situent en quelque sorte dans une ambivalence entre un imaginaire de l'Arabie Saoudite qui est marqué par la réussite économique et aussi par un imaginaire qui est quand même marqué par le religieux, même si j'en parle peu, ça, c'est un peu transversal à tout ça, l'attrait pour les lieux saints et la connaissance, le vécu au quotidien de ce risque de l'expulsion, du fait de ne pas avoir le droit d'être là et de ne pas avoir de droit tout court. Et également, ils sont pris aussi dans cette nécessité quand même de rentrer à un moment donné au Niger, où pour la plupart d'entre eux, ils ont laissé leur famille. Et Garba, qui a effectué ce parcours, c'est la petite citation en bas, il résume quand même assez bien cette ambivalence, où il dit « voilà, la Mecque est une terre où la vie est meilleure. Dans le monde, quand vous cherchez quelque part où la vie est meilleure, c'est la Mecque. Tout musulman, s'il n'est pas contraint, il ne sortira pas de la Mecque. » Ce qui est intéressant, c'est que lui a été le premier à en sortir, et y compris volontairement. Donc, voilà. Alors, l'expulsion est... Pourquoi l'expulsion a été utilisée comme un mode de circulation. Donc, elle renvoie a priori à un moment de rupture forcée du séjour donc, de ces migrants. Alors, je ne vais pas revenir forcément sur les conditions des arrestations, de la rétention et de l'emprisonnement, mais plutôt me centrer sur la manière dont les expulsions sont encadrées ou organisées. Donc, vous voyez, je vous ai mis 2-3 éléments dans la diapo. Les arrestations ont vraiment lieu partout, y compris dans les mosquées, y compris dans la grande mosquée de la Mecque. Et la durée d'emprisonnement, de rétention et de durée variable, en fait, c'est juste une question de disponibilité d'avion et qui ne renvoie, par exemple, au Niger que lorsque l'avion est complet. Ou alors, il y a des accords avec différentes compagnies aériennes, dont la RAM, pour ne pas les citer, dont Ethiopian Airlines, qui se charge aussi de rapatrier, qui atterrissent à Niamey, évidemment, qui se charge aussi de rapatrier les personnes expulsées. Donc, en fait, hormis pour la période très très récente, qui sont un peu là, très récente, il y a un petit peu moins d'un an, et encore, c'était même pas complètement systématique. En fait, les migrants ont la possibilité d'être renvoyés avec tout ou une partie de leurs biens. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont arrêtés et emprisonnés, ils ont la possibilité d'entrer en contact avec leurs proches. Tout ça est très encadré et très organisé. Qui leur font parvenir à ce moment-là leurs biens, leurs affaires, via un intermédiaire qui dépend du consulat du Niger en Arabie Saoudite. Donc vous voyez, c'est quand même très, très encadré par les autorités à la fois saoudiennes et nigériennes. Jusqu'au début des années 2000, pour vous donner un ordre d'idée, chaque personne expulsée avait le droit de voyager avec 60 kilos de bagages. Aujourd'hui, on se situe à peu près autour de 40 kilos de bagages pour chaque personne expulsée, ce qui est quand même assez conséquent. Et pour ce qui est de l'argent liquide, alors soit certains migrants disent faire le choix de sortir quotidiennement avec leur argent en liquide sur eux, cousu dans les ourlets, les chaussures. D'autres disent que c'est absolument pas nécessaire dans la mesure où, y compris l'argent liquide, peut être tout à fait récupéré au moment où ils sont en rétention via leurs proches et via cette personne de l'ambassade, du consulat en tout cas du Niger. Alors, au-delà donc, de cet aspect très, très factuel, très organisationnel, la possibilité que l'expulsion autorise justement le rapatriement de l'épargne et des biens accumulés vient en quelque sorte contrebalancer l'effet de rupture et surtout, dans la mesure où elle permet quand même, une démonstration de la réussite lors de l'arrivée à Niamey. C'est-à-dire, du point de vue des migrants, mais aussi d'un point de vue social, pour ceux qui sont restés, l'expulsion d'Arabie Saoudite n'est pas synonyme de honte ou d'échec, comme c'est le cas pour d'autres expulsions d'Europe, par exemple, ou de Libye aussi, où les gens sont vraiment rentrés totalement démunis et sans rien, pour la plupart d'entre eux. À son retour, le migrant ici est à même de remplir les obligations liées à son statut, au premier rang desquelles la redistribution de son épargne à ses proches, à ceux qui l'ont aidé à partir. Et cette redistribution, plus qu'une logique finalement d'entraide ou de solidarité, traduit plutôt un système d'obligations et constitue quand même une démonstration de la réussite sociale. Et donc, cette possibilité de rentrer avec ses biens, c'est-à-dire de même expulser, on ne rentre pas sans rien, participe aussi à la construction d'un imaginaire de la réussite en Arabie Saoudite, malgré le caractère incertain de ce statut de migrant irrégulier. Et elle permet donc de ne pas subir la honte sociale qui est attachée au fait de rentrer sans rien. Et donc, finalement, pour le dire de manière extrêmement simple, cette possibilité permet de rentrer tout simplement et de rentrer de manière tout à fait honorable. D'où l'utilisation de l'expulsion comme un mode de circulation. Alors, avant de m'intéresser à la façon dont justement se construit la période post-expulsion suite à ce retour, je vais quand même juste dire un petit peu quelques mots. J'ai jusqu'à quelle heure en fait ? Oui, d'accord, ouais, ok, merci. Ouais, donc j'ai m'affolé un petit peu. Je vais dire quelques mots sur cette catégorie particulière d'expulsés que sont ceux qui sont nés en Arabie Saoudite, donc de parents nigériens, puisque en fait, eux justement, au moment où ils sont expulsés, pour le coup, ils arrivent sans rien à Niamey. D'abord parce qu'ils ne sont pas inscrits dans les mêmes, c'est pas la bonne diapo, enfin ça correspond pas à cette diapo, mais ils sont pas inscrits dans les mêmes réseaux sociaux que les migrants. Ils sont installés depuis plusieurs générations pour certains d'entre eux. Et surtout, ils ne peuvent pas rapatrier leurs biens ou leur épargne parce que, de fait, ils laissent leur famille derrière eux. Certains laissent leur épouse ou leur époux, leurs enfants. Il y a également parmi eux des mineurs qui sont expulsés, y compris très jeunes, qui sont expulsés seuls. Et donc, ils sont on est là pour eux, dans leur cas, dans une logique qui est assez différente. Mais par contre, à l'inverse des migrants, ils ne s'inscrivent pas du tout dans cette même logique d'obligation de redistribution au moment de leur arrivée. Alors, hormis donc pour ce dernier cas, les migrants s'inscrivent, donc, ce que je disais, dans une logique de séjour temporaire en Arabie Saoudite. Pour reprendre l'expression du titre, ils partent chercher d'un côté. Et d'un autre côté, l'usage qui est fait de ce verbe, enfin ce qu'on peut retenir de l'usage qui est fait de ce verbe s'asseoir, en particulier dans les entretiens, donc qui qualifie l'installation dans un lieu, traduit d'une certaine manière ce caractère temporaire du séjour. On va s'asseoir à Abidjan de la même manière qu'on va s'asseoir à La Mecque, c'est-à-dire c'est le même terme qui est utilisé, quel que soit le lieu où ils résident, ou en tout cas à partir du moment où ils sont en migration. Le retour ici est pris en compte dans l'expérience migratoire, pari étant fait de le repousser au maximum en évitant donc l'expulsion. Et dans ce contexte alors, comment se négocie donc ce retour à Niamey, cet autre lieu où les migrants déclarent aussi venir s'asseoir, c'est-à-dire qu'ils qualifient de la même manière que l'Arabie Saoudite, et notamment comment s'articule installation à Niamey et projet de réémigration. Alors, l'analyse du processus d'installation à Niamey la conduit, là, pour le coup, à dépasser cette distinction entre des migrants classiques expulsés et ceux qui sont nés en Arabie Saoudite. Donc là, on globe un petit peu tout le monde à ce moment-là. Ce qui joue ici, c'est la durée de présence dans la capitale, depuis combien de temps ils ont été expulsés, leur âge également au moment de l'expulsion, et est-ce qu'ils ont construit ou pas une famille, en particulier donc évidemment pour les hommes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des personnes à charge, et la manière également dont ils sont insérés ou pas dans des réseaux sociaux. Donc c'est autant d'éléments qui sont à prendre en compte et qui jouent dans la compréhension donc de ces trajectoires post-expulsion. Donc, je vais les explorer rapidement au travers de différents éléments, regardant d'une part comment ils accèdent à l'emploi, d'autre part comment ils accèdent au logement, et enfin comment ils s'insèrent ou pas dans des réseaux sociaux particuliers. Avant cela, une précision pour un petit peu comprendre le contexte de l'arrivée à Niamey et poursuivre justement sur cette logique de redistribution jusqu'au bout, en quelque sorte, pour ce qui est des migrants en particulier. Donc ici, dans ce petit schéma, et également donc, ce que je vous ai dit, au moment de l'expulsion, ils rentrent avec un petit pécule qui est utilisé pour des dépenses courantes, assurer quand même une installation minimale au moment de leur expulsion, et ce que j'ai mis entre guillemets des cadeaux, c'est-à-dire voilà, la redistribution. Pendant leur séjour, tous envoient des fonds, parfois assez conséquents, voire même très conséquents dans le contexte nigérien, aux membres de leur famille, fonds qui sont essentiellement utilisés pour acheter des vivres, payer des frais de santé, de scolarité, c'est-à-dire on est dans une dépense immédiate, quoi. On est très, très, très rarement dans des logiques d'investissement. Dans les deux cas, on s'inscrit donc dans cette démonstration de la réussite qui est une sorte d'affirmation sociale du statut de migrant. Alors, qui conduit, donc c'est la flèche finale, à l'installation, ce qu'on peut parler d'installation dans la précarité. C'est-à-dire que une fois l'expulsion faite, le capital accumulé, enfin le peu de, enfin il y a peu de capital accumulé, notamment parce que ce qui a été envoyé n'a pas été investi, ne peut pas avoir été investi, et le pécule avec lequel il rentre, eh bien, il est quand même dépensé extrêmement rapidement. Donc, si d'un côté on a une expulsion qui se passe bien entre guillemets, très rapidement, ce côté positif. J'allais dire côté positif de l'expulsion, c'est pas très heureux comme expression, mais disons ce côté positif disparaît très rapidement et l'installation s'effectue vraiment sous le signe de la précarité, que ce soit d'un point de vue économique ou résidentiel. Alors, si on regarde justement ce qui se passe du côté, dans un premier temps, de l'accès à l'emploi. Pour ce qui est de l'accès à l'emploi, et bon, alors pour ce qui est du groupe d'expulsés que j'ai rencontré, la plupart s'insèrent dans le secteur informel de l'économie, essentiellement dans le commerce, mais dans le petit commerce, c'est-à-dire qu'ils ont des petites boutiques, des charrettes, des tables, hein, ou dans le commerce ambulant. Donc là, on est vraiment dans des logiques de petits métiers qui permettent d'entretenir très difficilement une famille. Il s'insère également dans des métiers de service comme le gardiennage, qui est plus ou moins bien payé et plus ou moins payé tout court même au Niger. Et également s'offre à un certain nombre d'entre eux des possibilités d'insertion dans des métiers qui sont liés aux religieux. Alors, un certain nombre de ces migrants, mais surtout ceux qui sont nés en Arabie Saoudite évidemment, maîtrisent l'arabe lorsqu'ils arrivent au Niger, ce qui constitue pour ces métiers liés aux religieux, un avantage indéniable. Autre avantage, le fait d'avoir séjourné pendant un temps long, ou pas, mais souvent, enfin, long, c'est mieux quand même, dans les lieux saints, leur confère aussi un avantage indéniable qui est juste de l'ordre de l'image, en fait, hein. Parmi ceux qui parviennent donc à soit devenir marabout, répétiteur coranique ou enseignant coranique, certains ont effectivement reçu un enseignement religieux tout à fait réel, mais la plupart d'entre eux, pas vraiment. Enfin, ils ont juste suivi l'école coranique, mais de manière extrêmement rapide même, et certains n'ont même eu aucune formation religieuse. Mais le fait de maîtriser l'arabe et donc de pouvoir lire le Coran et le fait d'avoir séjourné dans les lieux saints leur confère une notoriété de fait, en quelque sorte, une compétence acquise de fait qui autorise une insertion dans ces métiers-là qui sont finalement les métiers où, d'un point de vue économique, ils s'en sortent, on va dire, le mieux. Sachant que pour ceux qui sont nés en Arabie Saoudite, en particulier, ils n'ont que ces métiers-là comme perspective, en particulier pour ceux qui ne maîtrisent aucune des deux langues véhiculaires à Niamey, donc le Zarma et le Haoussa. En particulier, il y avait un certain nombre d'expulsés qui sont Touareg, donc qui parlent le tamashek et l'arabe, ce qui à Niamey est extrêmement compliqué, mais ne serait-ce que pour se débrouiller au quotidien. Quand vous parlez uniquement ces deux langues, c'est très très compliqué de se débrouiller au quotidien. Donc, au-delà quand même de l'expérience migratoire, enfin de cette compétence acquise par l'expérience migratoire, donc via dans les métiers du religieux, on peut quand même signaler que le fait qu'ils se regroupent dans des métiers, des types d'emplois qui sont extrêmement précaires, est quand même à mettre en relation avec leur faible niveau d'éducation, de manière générale, y compris pour ceux qui sont nés en Arabie Saoudite, d'abord parce qu'étant étrangers, ils n'ont pas eu forcément accès à l'école. Faible niveau d'éducation, bon, qu'on peut mettre en lien avec l'origine rurale d'un certain nombre de ces migrants. Alors, cette logique de précarité de l'installation se retrouve aussi dans le logement. Aucun de ceux que j'ai pu rencontrer, je crois qu'il y a une des photos, voilà, qui est, moi, à l'écran, elle est qui est très foncé, mais bon, c'est pas très grave. Aucun de ceux que j'ai pu rencontrer n'était propriétaire de ce logement. Quelques-uns, ceux qui s'en sortent le mieux, disons, s'insèrent dans le secteur locatif populaire. Les plus jeunes, qu'ils soient mariés ou non, sont hébergés chez des membres de leur famille, donc dans des cours, dans les cours communes, dans les cours familiales. Ceux qui ont la chance, ceux qui sont gardiens, peuvent avoir la chance de loger sur leur lieu de travail. Et une autre catégorie, qui sont parmi les plus précaires, n'a pas d'autre de possibilité que de rejoindre eh bien, les plus pauvres à Niamey, en fait, qui se logent, qui squattent en fait, l'espace public. Donc c'est la photo que vous avez ici, et qui se logent dans des cases en séco, qui sont des tiges de mil séchées, et donc qui sont construites dans l'espace public, dans des parcelles libres, au bord des rues, etc. On en trouve un petit peu dans toute la ville. Donc qui est vraiment la forme de logement des personnes les plus précaires dans la ville de Niamey. Et d'autres encore, qui sont peut-être encore plus précaires, si on fait une échelle à ce niveau-là, qu'on retrouve notamment parmi ceux qui sont nés en Arabie Saoudite, qui, eux, pour certains, trouvent uniquement à se loger dans les mosquées, dans des petites chambres qui peuvent être attenantes aux mosquées, qui leur sont prêtées au nom de l'aumône faite à tout musulman, où on peut toujours aller se réfugier à la mosquée lorsqu'on ne sait pas où dormir. Et donc, ils s'y regroupent souvent à plusieurs, dans une grande promiscuité, avec un niveau de... Enfin, dans des conditions extrêmement difficiles. Dernier élément qui, à la fin, illustre ou montre un petit peu quand même la difficulté qu'il y a pour ces expulsés à s'insérer et à s'installer à Niamey, qui est l'appartenance ou non à des réseaux sociaux qui peut constituer quand même une sorte de clé d'entrée dans la ville et favoriser le processus d'installation. Alors, dans cette logique-là, ceux qui ont vécu à Niamey avant de partir en Arabie Saoudite sont les plus avantagés, car au moment de leur arrivée, ils sont à même de réactiver des liens sociaux anciens, d'autant plus s'ils les ont entretenus, ne serait-ce que par l'envoi de fonds, par exemple, ou par des logiques d'entraide. Donc c'est un petit peu le sens de la citation que vous avez ici, qui est donc le cas de Garba, dont on a vu la carte tout à l'heure, celui qui circulait entre l'Arabie Saoudite et le Niger, où en fait il explique quand il est arrivé. Donc vous voyez, lui, il a un parcours post-expulsion qui s'inscrit d'entrée dans une logique de précarité, puisqu'il a commencé comme vendeur ambulant de sacs d'écoyer, ce qui est quand même un petit peu compliqué, sachant que c'est quelqu'un qui avait envoyé des sommes d'argent assez conséquentes au Niger pendant tout son séjour en Arabie Saoudite. Et il a croisé, de par des connaissances qu'il avait acquises à la fois dans ses premières migrations au Bénin, dans certains endroits, et puis qu'il avait acquises à Niamey avant de partir, il a pu progresser, enfin en tout cas changer d'emploi et progresser un petit peu dans son emploi. Donc, lorsqu'ils arrivent à Niamey, donc là, on est dans une logique de réactivation de liens anciens qui ne peut bénéficier qu'à ceux qui connaissaient déjà la ville. D'autres mettent à profit, par contre, des ressources sociales qui sont acquises via l'expérience migratoire en Arabie Saoudite. Alors, soit en s'accrochant ou en rejoignant d'autres expulsés plus anciens, soit surtout en s'appuyant sur des pèlerins qu'ils ont rencontrés au moment du Hajj à la Mecque et avec lequel ils ont pu construire à ce moment-là des liens particuliers. Sachant qu'un des métiers en Arabie Saoudite, c'est justement pour ces migrants, c'est d'accompagner les pèlerins, de leur servir de guide pendant le pèlerinage. Et donc là, certains construisent des relations de proximité qui sont entretenues et qui peuvent être réactivées au moment de l'expulsion, en particulier pour trouver un emploi. Et à l'inverse, quand même, d'autres ne disposent vraiment, pour le coup, d'aucune ressource sociale. Et c'est quand même le cas, surtout, de ceux qui sont nés à la Mecque. C'est ceux, je vous le disais, qui se retrouvent dans ces logements prêtés au nom de l'aumône et qui sont complètement, de fait, isolés dans l'espace urbain. Alors, au-delà de la durée d'installation à Niamey, qui reste quand même, quoi qu'il arrive, sous le signe de la précarité, ce qui est intéressant, c'est que certains étaient depuis 10 ans à Niamey lorsque je les ai rencontrés, et d'autres depuis 2-3 ans ou moins. Leur situation n'était pas si différente que ça. l'expulsion donc joue quand même dans la construction de cette logique de précarité, puisque bon, bah, évidemment, le moment du retour n'est pas choisi. Alors, face à cette logique, on pourrait penser que Niamey se présente comme une étape, une pause, dans une perspective de réémigration. Perspective de réémigration qui conduit là à interroger un petit peu les imaginaires, en tout cas qui se jouent autour des mobilités. Alors, de la même manière, mon petit schéma qui synthétise tout ça, qui me permettra d'aller un petit peu plus vite, pour ceux qui s'inscrivent vraiment, en tout cas dans le discours, là on est vraiment dans des logiques de discours et de projets dont on sait s'ils se réaliseront ou pas. En tout cas, dans ceux qui s'inscrivent dans une logique de rester à Niamey, de ne plus bouger de là, les arguments avancés relèvent d'une part de la construction de la famille. Les enfants sont scolarisés, donc il faut assumer par exemple cette charge. Un effet de l'âge également, des hommes qui ont atteint la cinquantaine vont vous dire que bon, bah, il est trop tard, ils ne vont pas repartir en migration, d'autant plus qu'à cet âge-là, un certain nombre d'entre eux ont déjà des enfants suffisamment âgés, grands, pour partir eux-mêmes en migration, donc ils passent le relais en quelque sorte à la génération suivante. D'autres également font état des politiques migratoires saoudiennes très contemporaines, qui font eh bien, que ce pari, ce fameux pari sur le séjour, ne vaut même plus la peine d'être joué, les expulsions étant beaucoup trop importantes. Et d'un autre côté, un certain nombre s'inscrivent dans une volonté de réémigration. Alors là se retrouve une partie, mais pas tous, de ceux qui sont nés en Arabie Saoudite, qui veulent simplement retrouver leur famille. C'est-à-dire que vous avez vraiment, par exemple, des pères de famille qui ont été expulsés et qui ont laissé des enfants en bas âge, leur épouse, et bon, qui n'ont d'autre envie que de repartir. D'autres qui souhaitent repartir simplement pour améliorer le quotidien, sortir de cette situation socio-économique, de situations socio-économiques souvent extrêmement difficiles. Et la réémigration amène aussi à tenter de nouvelles. Alors j'ai mis nouvelles très volontairement routes migratoires, je l'ai mis entre guillemets, puisque ce sont des routes qui sont forcément pas si nouvelles que ça. Alors, dans cette catégorie qui veulent réémigrer, ce qui est intéressant, c'est que la majorité d'entre eux ne souhaitent réémigrer qu'en Arabie Saoudite, bon, ce qui est logique pour ceux qui y sont nés, mais c'est également le cas pour d'autres. Il n'y a pas d'autres alternatives de destination possibles. Et lorsqu'il y en a, c'est aussi des destinations du Moyen-Orient, notamment le Qatar et le Koweït. Le Qatar et le Koweït étant envisagés comme des pays où l'on pourra rester un temps avec l'idée qu'on est quand même plus près de l'Arabie Saoudite et donc on pourra finir par rentrer et repartir en Arabie Saoudite. C'est un peu que sont envisagés comme des pays relais et s'inscrivent dans cette logique de nouvelles entre guillemets routes migratoires pour justement contourner des entraves qui ont été mises en place récemment par l'Arabie Saoudite à la réémigration. Parenthèse, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas évoqué. Depuis quelques années, depuis 5-6 ans, l'Arabie Saoudite a mis en place un fichier biométrique des expulsés et s'accompagne évidemment de ce fichier une interdiction de revenir en Arabie Saoudite, y compris pour le pèlerinage, pendant 5 ans. Alors, comme ces personnes-là sont musulmanes, ils ne peuvent pas les interdire à vie de revenir sur le territoire saoudien, parce que d'un point de vue religieux, on ne peut pas empêcher le pèlerinage, mais il y a quand même cette sanction, en quelque sorte, des 5 ans, qui limite la réémigration, en tout cas rapide. D'où cette logique de tenter des nouvelles routes, donc soit par le Koweït et par le Qatar, via l'obtention de visas de manière différentes manières, soit une réouverture qui est en train de se faire et qui s'est même faite de la route très ancienne du pèlerinage qui partait donc par la route qui part du Sahel via le nord du Nigeria, le Tchad, la Centrafrique et le Soudan et pour finir au bord de la mer Rouge et passer en Arabie Saoudite, donc qui est une route, vous avez vu la liste de pays que je viens de donner, qui est une route quand même extrêmement extrêmement dangereuse et aussi tout aussi coûteuse. Mais quand même, ce qu'il y a en commun entre ceux qui sont dans cette logique de rester à Niamey et ceux qui sont dans cette logique de réémigration, c'est cette espèce d'attente d'une opportunité. Attente d'une opportunité, soit pour sortir d'une condition socio-économique difficile en restant là, soit en réémigrant. Sachant que ce soit l'idée, le projet de rester à Niamey ou le projet de réémigrer, il faut les envisager justement, enfin, ça n'est valable qu'au moment où, d'une certaine manière, j'ai eu la personne en face de moi. Ça peut varier au cours d'une vie et au cours du séjour. Certains moments, pour X raisons, la personne va vouloir réémigrer, alors qu'à d'autres moments, elle va être plutôt dans une logique de rester à Niamey. Alors, en conclusion, alors, je suis désolée, cette carte est très très moche, il n'y a même pas d'échelle et tout ça. C'est, voilà. C'est honteux, il n'y a ni source ni rien. Je l'ai faite un peu... voilà. alors, en conclusion, qu'est-ce qui ressort finalement de ces trajectoires, post-expulsion ? C'est-à-dire, malgré finalement, un petit peu dans la première partie de mon propos, on était dans une logique, un petit peu une présentation finalement assez positive de ces expulsions, au sens où voilà, on peut rentrer avec quelque chose, malgré ces bonnes conditions, entre guillemets, de l'expulsion, les migrants sont inscrits très très rapidement dans des logiques de précarité, de grande précarité, dans lesquelles ils semblent se retrouver totalement coincés. Ils se retrouvent coincés dedans, non pas tant sans doute en raison de leur expulsion, même si elle a joué, mais aussi en raison du contexte local à Niamey. Là, le contexte économique est quand même extrêmement difficile au Niger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette logique de redistribution qui traverse la migration et qui est vraiment indispensable dans la migration, eh bien, elle contribue à la construction aussi de cette précarité. C'est-à-dire qu'il y a on est dans un contexte au niveau local de pauvreté dont on peut sortir en s'éloignant, mais dont au moment du retour, alors l'expulsion rajoutant quelque chose, au moment du retour, eh bien, on se retrouve dans la situation très rapidement dans laquelle on était parti, parce qu'on redistribue très vite, le contexte local étant ce qu'il est, on est obligé aussi de redistribuer très vite. En tout cas, il y a de grandes difficultés pour ces migrants de s'inscrire dans des logiques d'accumulation et d'investissement. Alors, voilà, en quelques minutes, autre élément de conclusion et qui est un petit peu aussi le sens de cette carte, qui est l'idée de sortir un petit peu du cadre saoudien. Dans mon propos, je suis revenue à plusieurs reprises sur le contexte migratoire saoudien actuel, qui justement où les expulsions vont largement en augmentant. Et a priori, ça ne devrait pas changer, en tout cas dans les années qui viennent. Donc d'un côté, l'Arabie saoudite mène une politique vraiment d'expulsion, ne mène même pas une politique migratoire, il mène une politique d'expulsion. Et finalement, c'est pas le seul pays, lorsqu'on regarde ça simplement à l'échelle du Niger, donc qui est un pays dont on parle de plus en plus aujourd'hui pour ce qui est des questions de migration. Alors, il y a deux couleurs de flèches, des flèches noires et des flèches rouges. Les flèches noires, ce sont les flux, représentent les mouvements vers le Niger, soit de réfugiés, soit de déplacés, Véronique va me, si j'utilise mon mauvais vocabulaire, je vais me faire taper sur les doigts, soit de Nigériens, donc qui sont chassés alors du Nigeria ou du Mali ou la Centrafrique en raison du conflit, des différents conflits dans ces zones-là. Donc ça, c'est pour ce qui est des pays limitrophes, ce qui fait déjà quand même plusieurs centaines de milliers de personnes, en particulier sur la frontière du Nigeria. Et les flèches rouges, donc, représentent les pays qui expulsent. Alors, il faut juste quelques précisions. Les expulsions d'Europe sont extrêmement réduites vers le Niger, non pas parce que l'Europe n'expulse pas, mais parce qu'il y a très peu de Nigériens en Europe. Voilà, c'est pas... L'Afrique du Sud, de la même manière, on est un peu dans des cas qui sont... L'Arabie saoudite se situe un peu dans un intermédiaire ici. Le gros des expulsions aujourd'hui, c'est l'Algérie et la Libye. Pour donner un ordre d'idée, dans les 6 à 8 mois derniers, l'Algérie a expulsé quasiment 10 000 Nigériens. Dans les 6 derniers 8 mois. Alors, qu'est-ce que ça illustre, en fait ? Enfin, du point de vue, si on regarde ça, comme je peux le faire avec mes collègues au Niger, du point de vue du Niger, on a l'impression, en tout cas, on a le sentiment qu'on est aujourd'hui dans un point de basculement. Le Niger a longtemps été un pays protégé, notamment justement parce que pas concerné par les migrations vers l'Europe. Pays, donc, continent africain, bon an, mal an, on a toujours arrivé à circuler à peu près librement. Et en fait, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que justement, ce continent africain, eh bien, plus en plus, pour des raisons diverses et variées, à la fois de mise en place de politiques migratoires, comme c'est le cas au Gabon ou en Afrique du Sud, ou des raisons de conflits, comme c'est le cas dans les pays limitrophes, eh bien, il est de plus en plus difficile d'y circuler. Et je terminerai par un point d'interrogation, parce que c'est un peu ce sur quoi on est en train de s'interroger avec mes collègues au Niger. C'est quel est l'avenir de ce système migratoire qu'on a longtemps présenté comme très particulier, centré sur l'Afrique, sur les migrations circulaires, dans un contexte où justement les circulations sont de plus en plus empêchées et se terminent par des expulsions de plus en plus massives. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup à Florence. On va enchaîner, comme d'habitude, tout de suite les questions. À vous de prendre la parole.
Elle était contente, la chaise.
Tu veux que je te remplace?
Oui, c'est bien. Oui. Vas-y, je vais le
faire. Je veux bien. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante de cette forme migratoire qu'on connaît peu, en fait. On connaît peu. Surtout cette forme d'expulsion qui est quelque chose d'assez particulier, quand même. Et, alors, moi, j'avais quand même deux questions, au moins. Tu n'as pas trop parlé du travail que font ces migrants en Arabie Saoudite. Dans quel genre de travail sont-ils, puisqu'ils, tu dis qu'ils ont quand même les moyens d'envoyer de l'argent à leur famille. Et puis, est-ce que tu pourrais nous dire un mot un peu aussi de ta méthodologie, comment tu as travailler sur ce thème et comment tu as recueilli ces informations.
Si tu veux enchaîner deux questions, je crois qu'il y avait déjà deux questions.
Un peu en prolongement, moi j'ai compris qu'en Arabie Saoudite, ils sont surtout guides pour les pèlerins, mais effectivement il y a peut-être d'autres métiers. Et vous avez parlé de deux autres pays, nouvelles voies de migration via Qatar, entre autres. Et est-ce que là, c'est pareil? Mais bon, les pèlerinages au Qatar sont peut-être plus rares. Donc, est-ce que c'est plutôt dans le bâtiment? Quelles conditions de travail dans le cas de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Est-ce que, bon, vous dites qu'ils arrivent à renvoyer de l'argent quand même ou à en mettre de côté. Est-ce qu'ils sont à peu près correctement rémunérés sur les 4 000 euros que récupère l'agence de voyage pour chaque migrant? Ça fait quand même pas mal de sous. Est-ce qu'ils en redistribuent une partie de manière à peu près correcte? Et puis autrement, c'est plus une remarque générale. Bon, moi, je suis dans les années 80-90, j'ai séjourné trois fois au Niger. À ce moment-là, il y avait 3 millions d'habitants, si j'ai bonne mémoire. Actuellement, c'est combien? 15 millions? 18 millions. Vous voyez? Entre 90 à maintenant, multiplié par 6. Et population supposée en 2040-2050, ça serait
Je ne sais plus exactement, mais ce serait le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.
Après le Nigeria.
Exactement.
Donc là, ça pose des sacrées questions, parce que, bon, là, on ne voit pas, mais la partie où on peut cultiver avec une pluviométrie à peu près correcte, c'est grosso modo au niveau de Niamey.
C'est là.
Et dès qu'on est... dès qu'on est au-dessus, vers Agadez, ben c'est 200-250 mm de pluie. Donc la population au Niger est avec une croissance démographique très forte. Et les risques, ou les probabilités, je ne vais pas dire risque parce que déjà ça fait une connotation, mais les probabilités de migration, en plus avec les dérèglements climatiques, sont forts. Et ce n'est pas l'uranium qu'on achète du côté d'Arlit qui va permettre au Niger de s'en sortir beaucoup mieux. Et une dernière remarque, j'ai vécu au Sénégal oriental aussi, c'est-à-dire à la frontière Mali, Mauritanie, Sénégal. Et on retrouve cette attitude de migrant. Alors, il n'y avait pas de cas d'expulsion dans les années 80 où j'étais, mais quand ils revenaient en vacances dans leur village à peu près tous les 3 ans pour avoir 3 mois de vacances cumulées pour payer un billet d'avion que tous les 3 ans, ben, il y avait cet esprit d'ostentation avec le costume, alors qu'on était à 37, 40 degrés. Et ils achetaient, avant de venir dans le village, 4-5 sacs de 1000 en payant soit un taxi-brousse, soit une charrette tirée par un âne, pour montrer qu'ils avaient du fric, alors qu'ils étaient peut-être au chômage, enfin, pour la plupart d'entre eux, déjà dans les années 80, c'était quoi, 84, ils étaient au chômage depuis plusieurs mois en France. Et je leur disais, mais tu parles de ton chômage ? Ah non, non, parce que là, ils pensent que j'ai réussi en France, donc je ne vais pas parler de ce que j'ai loupé, de ce que j'arrive plus à... Mais ils ont cette image à donner. Et on va en Inde, les Indiens, pour montrer qu'ils ont réussi, j'achète une voiture. Et c'est au mètre que ça se mesure. La réussite se mesure au mètre de voiture. Plus elle est grosse, plus elle est longue, mieux on a réussi. Donc aller leur parler de transport en commun, c'est complètement contradictoire avec le fait qu'il faut qu'ils montrent qu'ils ont réussi.
Et les femmes dans tout ça, est-ce qu'elles... J'ai déjà entendu parler des femmes en Arabie Saoudite, on a vu des reportages ou des articles sur la façon dont elles vivent là-bas. Est-ce qu'elles arrivent à émigrer malgré certainement beaucoup plus de difficultés, en ayant certainement beaucoup plus de difficultés que les hommes? L'image même d'une femme qui émigre doit être complètement différente, quoi. Merci.
Alors, sur les métiers, ce qu'ils font en Arabie Saoudite, alors il y a plusieurs possibilités. Il y a ceux qui, en fait, ils sont, ce qui revient, alors c'est assez marrant dans les entretiens. C'est-à-dire, le premier entretien, on m'a raconté une première histoire, puis le deuxième, la même histoire, et la troisième, la même histoire. À savoir qu'il y a un endroit à la Mecque, où je n'irai jamais, où il y a une station-service, un carrefour. Et ils se rassemblent là, et les patrons, les employeurs potentiels viennent les chercher. Donc c'est un lieu de rassemblement. En face, il y a une colline, et quand la police arrive, ils courent dans la colline. C'est vraiment l'histoire qui revient de la part de migrants qui ne se connaissent absolument pas les uns les autres. Mais, voilà, donc, visiblement, il y a un lieu de concentration dans cet endroit-là, à la Mecque. Donc ils sont employés à la tâche, dans le BTP, effectivement, dans le bâtiment très souvent. Des travaux extrêmement durs de destruction, des travaux de carrière aussi, ces travaux manuels, voilà. Il y en a certains qui lavent les voitures, ce genre de choses. C'est beaucoup des petits métiers. Alors, au moment du pèlerinage, effectivement, le pèlerinage, c'est un moment où, là, par contre, ils peuvent gagner de l'argent, avec plusieurs possibilités. Ils peuvent se transformer, entre guillemets, en mendiants, le pèlerinage étant ponctué de moments où d'une nécessité, enfin d'un impératif religieux de faire l'aumône et des aumônes importantes, donc ça devient extrêmement lucratif d'être mendiant à la Mecque à ce moment-là. Et puis on guide effectivement de pèlerins nigériens, c'est-à-dire qu'ils vendent leurs services pour guider les gens dans les lieux saints, leur apprendre comment il faut faire, comment on respecte les rites, comment on fait les rites, etc., etc. Si vous voulez, c'est savoir ce qu'ils gagnent, en fait, et la manière dont ils... Alors, il y a un premier élément, c'est quand même la différence de niveau de salaire, même si les Saoudiens ne sont pas des gens... Enfin, ils ne gagnent pas énormément d'argent au regard du salaire basique en Arabie Saoudite. Par contre, si on compare avec le Niger, ça fait beaucoup d'argent. C'est dans le comparatif, en fait. Enfin, c'est dans la distinction entre les deux que la réussite se joue finalement. Il y a quand même effectivement beaucoup d'entretiens et d'histoires où les gens travaillent une journée, deux journées, trois journées, ne sont pas payés et ne peuvent rien faire parce que ils peuvent rien faire. C'est quand même quelque chose d'extrêmement récurrent. Il y a beaucoup de choses sur le racisme aussi en Arabie Saoudite. Et les femmes, du coup je vais parler des femmes en même temps, les quelques femmes s'emploient comme domestiques. Alors sur la migration des femmes, déjà pour qu'une femme fasse le pèlerinage toute seule, c'est extrêmement compliqué parce qu'une femme ne peut pas voyager seule en Arabie Saoudite. Après donc il lui faut un garant, un parrain, donc un homme qui l'accompagne. qui n'est pas forcément son mari, hein, c'est pas, mais voilà, qui soit garant très officiellement. Donc il y en a quand même qui migrent de façon autonome. Ça arrive via ce système-là. Ça leur coûte plus cher du coup parce que bah, vous payez votre garant. Et voilà. Donc, et celles-ci voilà, se retrouvent, sont généralement domestiques. Et certains migrants, et ça c'est quand même les cas les plus courants, font venir leurs femmes en Arabie Saoudite, y compris lorsqu'ils sont sans papier. Certains, au bout d'un moment, font venir leurs femmes. Et là, dans ces cas-là, la plupart du temps, elles ne travaillent pas. Il y en a une qui faisait du commerce, mais c'est vraiment un cas, qui faisait du commerce dans la communauté nigérienne. Par contre, dans la rue, mais dans la communauté nigérienne. Ensuite, sur la méthodologie, alors effectivement, au début, le problème, en plus, je l'ai dit, les expulsés sont invisibles. Donc effectivement, la première difficulté, ça a été de les trouver dans la ville. Il n'y a pas de quartier d'expulsés, il n'y a pas tout ça. J'ai appelé mes collègues, mes amis, tout ça. Je leur ai dit, voilà, dans vos voisins, est-ce que vous en connaissez? J'ai commencé comme ça, en fait. Et puis après, de fil en aiguille, on rentre dans des petites communautés, parce que c'est quand même des petites communautés d'expulsés. Notamment ceux qui sont nés en Arabie Saoudite, là il y a vraiment des logiques de rassemblement dans des mêmes maisons, dans des mêmes lieux, etc., de partage de sociabilité. Mais pour les autres, il y a souvent, si vous voulez, quelqu'un qui a une expérience migratoire en Arabie Saoudite, il en connaît d'autres, et voilà, je progresse comme ça. Là, dans l'idéal, la progression, ce serait d'aller dans la zone de Zinder, donc qui est ici, qui est la plus grosse zone de départ du Niger vers l'Arabie Saoudite, mais la situation actuelle limite un petit peu cette possibilité, donc pour l'instant je reste à Niamey. Et donc j'ai réalisé des entretiens, enfin je suis allée les voir plusieurs fois sous la forme de récits de vie, ça fait 2 ans que je fais ce terrain à peu près. Alors sur les nouvelles voies de la migration, alors au Qatar et au Koweït, c'est un peu... En fait, ils y vont légalement, mais ils acquièrent les papiers et surtout le visa pour le Qatar et le Koweït de manière un petit peu particulière, via la corruption en fait, des agents au Niger, des agents des ambassades concernées. Et sur place, l'idée n'est pas forcément pour eux de travailler au Qatar ou au Koweït, mais vraiment d'utiliser ces pays comme des tremplins pour aller en Arabie Saoudite. Et là, j'avoue que j'ai peu d'informations sur la manière dont ils envisagent les choses. Certains envisagent d'y travailler, et c'est toujours le BTP, le secteur. Mais en tout cas, moi, dans ceux que j'ai rencontrés, ils avaient quand même des connaissances extrêmement limitées des deux pays. Ils n'avaient pas d'expérience encore de ces deux pays. Parce que la difficulté que j'ai, vu que je suis coincée à Niamey, au sens quasi littéral du terme, c'est qu'en fait, ceux qui ont déjà réémigré, de fait, ils ne sont plus là, quoi, ils sont déjà partis. Et pour le coup, je n'en ai pas encore rencontré qui ont pu être expulsés du Qatar ou du Koweït. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'expulsion du Qatar et du Koweït, mais tout peut arriver. Et après, donc, une autre voie possible, qui n'est pas une nouvelle voie, c'est toujours via la corruption, mais là, par contre, des agents saoudiens. Et ça, c'est les agences de voyage, de pèlerinage, qui s'occupent de ça. Donc, vous payez plus cher votre pèlerinage si vous êtes fiché en Arabie Saoudite. Et l'agence gère en Arabie Saoudite, avec la police saoudienne, le fait que vous passiez par derrière. Il y a un nombre d'arnaques assez important sur ce système-là, qui fait que les gens se méfient de plus en plus. D'où, pour certains, l'alternative de la route qui a vraiment été réactivée. Donc la route, elle passe ici, remonte à N'Djamena, il passe à peu près au nord de la Centrafrique. Ils redescendent un petit peu par là, sur Gadarif, qui doit être par là. Il y a une communauté nigérienne qui sert de relais dans cette... et ils finissent ici, pour passer clandestinement en Arabie Saoudite. Le risque est quand même extrêmement... c'est un voyage qui est extrêmement, extrêmement risqué, même s'il y a des relais. C'est une route qui est active, quoi. Ils ne sont pas démunis sur cette route. Il y a vraiment des relais sociaux, notamment. Pour moi, la question démographique, elle est effectivement fondamentale au Niger. C'est un record du monde dans plein de choses, le Niger. C'est le plus fort taux de natalité au monde. Et le taux de natalité augmente, en fait. Enfin, le nombre d'enfants par femme a augmenté entre les 2 derniers recensements. Donc, le contexte est... Il y a des politiques qui sont quand même en train d'être mises en place. Ça commence à émerger, à réémerger en tout cas, l'idée de mettre en place des politiques, une politique de population au Niger, avec tout ce que ça suppose de manière de faire, vu le contexte, et notamment le contexte religieux, entre autres, mais pas uniquement. Il y a une vraie, je pense, prise de conscience du Niger, mais alors surtout de l'Europe, par exemple, actuellement. C'est très, très fort en Europe du fait que, évidemment, qu'ils vont quitter le Niger. Ça, c'est... Voilà, mais personne n'a... Enfin, je pense qu'il y a aussi les... Tout le monde se voile un petit peu la face, en fait, sur cette question démographique, et notamment le gouvernement. Enfin, les autorités nigériennes ne veulent pas, ne peuvent pas aussi vraiment mettre les pieds dans le plat et mettre en place des politiques comme ça a pu être le cas dans d'autres pays, y compris des pays musulmans. C'est pas justement juste une question de religion. Ne veulent pas et ne peuvent pas mettre les pieds dans le plat pour mettre en place des politiques de population qui soient vraiment efficientes, quoi. Mais quoi qu'il arrive, les jeunes sont déjà là. Enfin, les enfants sont déjà nés là à l'heure actuelle. Hein, donc voilà. Voilà, je crois que c'était tout.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
J'ai une question. Est-ce qu'il y a des Nigériens qui s'installent en Arabie Saoudite et ne sont pas expulsés ?
Oui, il y en a qui sont devenus saoudiens.
Oui, non, mais je pose la question parce que c'est vrai que ce que tu dis, tu es coincé à Niamey. Oui. Donc, tu n'as que ceux qui, à la fois, ont été expulsés et ne sont pas repartis. Quoi. Qui, du coup, te permettent de parler de cela et pas forcément de ce qui se passe. Je pensais à ça quand tu disais les femmes qui arrivent pour rejoindre leur mari, etc. Peut-être c'est dans les plus stables, ces situations-là, je ne sais pas. Hein.
Alors, dans les. En fait, c'est. Disons que via des jeunes expulsés, j'ai essayé de reconstituer, bon an, mal an, des histoires familiales, justement. Et dans ces jeunes expulsés nés en Arabie Saoudite, leurs parents ou leurs grands-parents, parce qu'il n'y a quand même pas que des deuxièmes générations, il y a aussi des troisièmes générations. Certains ont eu la nationalité saoudienne. D'autres n'ont jamais été, pour ceux dont c'est les grands-parents, ils n'ont jamais été embêtés, parce qu'à ce moment-là, l'Arabie Saoudite, il n'y avait aucun souci. Et il y a aussi donc ceux dont j'ai parlé, dont les parents ont été régularisés, avec toute l'incertitude. Ce qui change aujourd'hui, fondamentalement, c'est l'incertitude liée à la régularisation. Et notamment, les parents vieillissants arrivant à la retraite, ils sont expulsables. Et ça, c'est vraiment nouveau. Alors, c'est vraiment très, très contemporain, ça. Avant, ils ne les expulsaient pas. Et ce qui est intéressant dans ces histoires familiales, c'est des espèces de récits un peu épopées, où les gens sont partis dans les années 20-30 à peu près, mais je n'ai pas rencontré, enfin pu remonter plus anciennement, par la route. Et justement, ils racontent toute l'histoire de cette route et puis des communautés qui ont essaimé là, et notamment au Soudan, communauté nigérienne qui existe toujours aujourd'hui, et qui se sont installées aussi en Arabie Saoudite. Et y compris dans ces migrations très anciennes, certains se sont mariés sur place avec des femmes nigériennes. Au Niger, on se marie toujours avec une femme nigérienne. Et notamment, au Soudan, il y a une communauté nigérienne qui est assez importante, qui est donc, dans la zone de Ganarif, ici, et qui fait partie des espèces de petits points de cette route du pèlerinage de gens qui sont restés en arrière. En fait, ils se sont retrouvés là à un moment donné où le Soudan mettait en place une politique d'aménagement, irrigué, Et donc, ils cherchaient des paysans pour s'installer. Et eux, ils passaient par là. C'est un peu ça, l'idée. Et ils se sont installés. Et ils sont toujours là. Voilà. Et ils ont continué à rester là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'avais juste une petite précision. Tu as parlé du fait que l'expulsion qui serait une forme de retour, était l'objet d'une redistribution collective, etc. Et à l'inverse... Est-ce que la décision le processus de penser à un redépart vers l'Arabie Saoudite fait l'objet d'une décision collective, quelle forme prend la discussion et la réflexion sur la décision de repartir?
Alors c'est là-dessus où je me suis pas attardée. C'est un peu cette idée d'opportunité, en fait. C'est-à-dire que moi, ceux que j'ai rencontrés, qui avaient cette intention de réémigrer, autant d'un point de vue économique, limite que social aussi. Enfin, ils n'avaient pas du tout ce moyen-là, en fait. La décision, elle ne dépend pas d'eux. Pour ceux qui ont de la famille en Arabie Saoudite, elle dépend de la famille en Arabie Saoudite qui, justement, amènera cette opportunité au sens où elle enverra l'argent et elle dira la route qu'il faut prendre pour ceux qui sont fichés. Enfin, qui ne peuvent pas. Ou alors elle dira, bah, t'attends 5 ans et dans 5 ans, on te fait revenir. Ce qui est, certains attendent réellement la fin des 5 ans. Donc elle dépend voilà, de la décision de ceux qui sont en Arabie Saoudite, qui sont les seuls en fait, qui ont les moyens justement de financer tout ça. Pour les autres, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est totalement hypothétique, mais qui peut arriver. C'est pour ça que même pour eux, je parle d'opportunité. C'est un peu, enfin, et ça peut arriver, c'est un peu le cas que j'ai pris de Brahima, où lui, dans son histoire, c'est ça. Bon, bah, j'ai jamais pensé à aller en Arabie Saoudite, et puis on lui dit, bon, bah, je te donne l'argent, et puis tu y vas. Et en fait, ce qu'ils attendent, c'est cette opportunité-là. C'est celui qui viendra, ou ceux qui viendront, et qui diront, eh ben, je te donne cette opportunité-là. Alors, la plupart du temps, c'est des gens de la famille, et c'est souvent des oncles. Enfin, ça se joue souvent via les oncles maternels. Enfin, c'est des histoires de règles de parenté après de proximité. Mais voilà, ça se joue au sein de la famille, systématiquement. Et finalement, ils sont pas totalement décisionnaires et pas complètement décisionnaires. Et surtout, s'ils sont cadets, émigration ou réémigration, c'est pareil, ils n'ont pas le choix. Si on leur dit « t'y vas, t'y vas ». S'ils sont à une position un peu plus âgée, s'ils ont une famille, etc., là, ils ont quand même une marge de négociation, mais sinon, ils en ont peu.
Tu as évoqué le fait de passer éventuellement par le Qatar ou le Koweït pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Je voulais savoir si, éventuellement, parce qu'en fait, avec une étudiante, Lucie Bacon, qui travaille plutôt sur le corridor des Balkans, on essaie de comprendre une route qu'évoquent certains subsahariens en disant qu'ils ne veulent plus traverser la Méditerranée, mais qu'il y a un marigot qui est plus simple. Donc, on a compris que le marigot, c'était...
C'est la mer Noire.
C'est la mer Noire, ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est envisageable que certains, par le biais du pèlerinage, entrent entre guillemets légalement en Arabie Saoudite et ensuite trouvent les voies et moyens de rebondir parce que manifestement ils rejoignent par voie aérienne Istanbul et ensuite ils reprennent la route
Bah là j'ai envie de dire c'est pas des Nigériens qu'il faut demander en fait parce qu'ils bah, eux ils rêvent pas du tout d'Europe mais vraiment pas enfin c'est au-delà de la plaisanterie c'est je pense qu'il faudrait regarder du côté peut-être du Mali ou du Sénégal justement.
Là, ce sont soit des Maliens, soit des Sénégalais,
ouais.
etc.
C'est non, enfin, ouais, pour des Nigériens, pour le coup, il y a vraiment, enfin, l'imaginaire lié à l'Europe, au Niger, c'est extrêmement rare. C'est réservé à des catégories très particulières, qui sont les gens très qualifiés. Tout ça, c'est vraiment toute petite niche. Éventuellement, des grands commerçants ou des enfants de grands commerçants, mais voilà. Migrants lambda, entre guillemets, ne rêvent même pas d'Europe. L'Europe n'existe même pas dans son imaginaire migratoire. Donc, je ne sais pas du tout, vraiment pas. Mais, ouais, je ne sais pas.
J'en ai une dernière, pas le micro.
On t'entend quand même.
Non, mais je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Donc, ils envoient des fonds. Vous avez expliqué, etc., que ça servait pour le quotidien, mais ça enrichit quand même le pays, quelque part. Non, et qui s'enrichit?
Moi, je dirais que ça enrichit une minorité, au sens où, encore une fois, c'est vraiment le contexte nigérien qui est un peu... Alors, j'ai toujours un peu de mal, moi, personnellement, avec ça, parce que c'est toujours un peu tendance... on est dans le pays le plus pauvre au monde, si on résume ça en une phrase. Et c'est un peu ce que monsieur disait, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où la charge démographique en milieu rural est telle que la moitié du pays en milieu rural, ce n'est pas viable, en fait. Ce n'est pas possible de nourrir... le slogan du président actuel, c'est « les Nigériens nourrissent les Nigériens », ce n'est pas possible. pour des raisons de charge démographique, de contexte climatique, d'usure des terres, enfin, etc., plein de raisons différentes. Et l'argent de la migration, enfin, les remises, elles servent à nourrir les Nigériens, en fait. Et ça, c'est c'est pas un enrichissement au sens où nous on l'entend, mais je veux dire, c'est indispensable à la survie des familles, des villages et tout ça. c'est pour ce qui est du milieu rural en milieu urbain, il y a quand même des investissements, même dans une capitale comme Niamey, il y a des investissements, mais très peu, de migrants internationaux dans l'immobilier de façon assez classique. Il y a un petit bout de quartier un petit peu chic à Niamey où on dit, voilà, c'est ceux qui sont aux États-Unis qui ont construit des grosses villas. Mais voilà, par rapport à Bamako ou à Dakar, c'est juste ridicule, en fait. C'est vraiment minuscule. Il y a quand même quelques endroits dans le centre du pays, là, dans la zone de Tawa, qui est une grosse zone de départ vers la Libye, enfin, qui était une zone de départ vers la Libye. On distingue un peu les maisons des migrants parmi les autres maisons, mais je ne sais pas comment dire. On est quand même dans des investissements qui restent extrêmement limités. Au Niger, ceux à qui profite l'argent, qui est aussi de l'argent issu de la migration, dont une partie de l'argent est issue de la migration, ou en tout cas de forme de circulation, c'est les commerçants, et les grands commerçants. Ça, c'est les fortunes du pays, c'est les grands commerçants. Ah oui. Oui, oui. Non, à Oussa, Zarma aussi, quand même, il commence à y en avoir. Et après, ceux qui en profitent aussi, c'est les compagnies de transport. Hein. Ça, c'est quand même le plus gros business en ce moment, c'est bien. Le transport, c'est bien, ça paye bien. Et qui transporte les migrants. Enfin, c'est...
Oui, tu parleras, madame. Après, la conférence.
Merci beaucoup, en tout cas.
Mais merci à vous.
Merci.